Stratégie présente U4 Stéphane de Vincent Villeminot. Lu par Garance Thénault. De novembre. Ils sont une vingtaine. Ils ont l'air d'avoir mon âge, 17 ou 18 ans. Des filles et des garçons. Ils sont nus, au bord du fleuve, corps miraculeux, sains, indemnes, dans cette morgue immense à ciel ouvert. Ils se lavent à grandes eaux, sur les marches du quai, malgré le vent froid. À proximité, sur deux grands feux de bois, des bassines fument, dans lesquelles ils ont fait bouillir l'eau du fleuve avant leurs ablutions, sans doute. Dans une autre bassine chauffe du linge que deux jeunes filles étendent sur les marches. Je ne peux me détacher de ce spectacle irréel. Depuis la rambarde du pont de la Guillotière qui enjambe le Rhône, et d'où je les observe, je les vois s'éclabousser. Ils poussent des cris quand l'un d'eux asperge les autres d'eau froide, rit parfois, s'apostrophe. J'avais oublié les rires. D'ici, parce que le vent d'automne descend du nord, j'entends leur voix, premiers éclats de vie dans la ville morte, sans comprendre leurs mots. Cela ressemble à une scène primitive. Le fleuve dans lequel ils se lavent, le feu comme combustible, les corps nus, sans pudeur, sur la berge et ses bribes de paroles. On s'attendrait à ce que les ponts disparaissent autour d'eux, les routes, le bitume, les immeubles, la ville de Lyon tout entière. Peut-être est-ce le cas ? Peut-être sont-ils les derniers survivants dans Lyon rendus à la sauvagerie ? Et dans quelques jours, plus rien de la civilisation que nous avons connue n'aura existé. L'un d'entre eux m'aperçoit soudain. Il me fait de grands signes m'invitant à les rejoindre. Puis plusieurs se tournent vers moi, m'appellent. Je souris malgré moi, accoudée à ma rambarde, mais le charme est rompu. Je traverse le fleuve, les laissant derrière moi, abandonnant le pont, désert comme l'était toute la presqu'île depuis l'appartement de mon père. La ville est déserte. À part ces baigneurs miraculeux, il n'y a pas un survivant. Dans la rue Saint-Michel, je croise deux nouveaux cadavres. Difficile de les ignorer, ceux-là. Ils sont au beau milieu de la chaussée. Ils se tiennent par la main, deux amoureux tragiques dont la mort n'a pu séparer l'étreinte, fauchés là par les fièvres au pied de leur immeuble, peut-être. Ou bien, se sont-ils retrouvés à cet endroit pour en finir ? Avaient-ils 20 ou 60 ans ? Seuls leurs vêtements me font pencher pour la première hypothèse. Pour le reste, c'est impossible à dire. Ils n'ont plus de visage. Couverts de sang séché. Leurs mains sont déjà travaillées par la putréfaction. Roméo plus Juliette. Ne compatis pas, ne brode pas. Que sais-tu, Stéphane ? Que comprends-tu ? Analyse. Le sang, les croûtes de sang, les fièvres. Des faits ? Quels faits ? Les gens ont commencé à saigner il y a 11 jours. Les symptômes ont été les mêmes pour chacun. Céphalée, migraine ophtalmique, hémorragie généralisée, externe et interne. Le sang suintait des yeux, des narines, des oreilles, des pores de la peau. Il mourait en moins de 40 heures. Fièvre hémorragique, filovirus nouveau, proche de la souche Ebola, mais infiniment plus virulent. Dénomination officielle, U4, pour Utrecht 4e type, l'endroit où la pandémie a commencé. 90% d'une population était atteinte. Et tous ceux qui étaient frappés mouraient. Tous, sauf nous, les adolescents. Seuls les adolescents de 15 à 18 ans ont survécu. La grande majorité, du moins. C'est ce que j'ai pu lire sur les principaux sites d'information au début. Puis, les web-journalistes sont morts, comme tous les adultes, comme les enfants. Les sites sont devenus indisponibles les uns après les autres. Les coupures d'électricité ont fait sauter Internet de plus en plus souvent. Le site du ministère de l'Intérieur continuait d'afficher ses consignes dépassées. Restez calme, ne pas paniquer. Portez des gants et des masques respiratoires. Évitez tout contact avec les contaminés. Abandonnez sans tarder les maisons ou les appartements touchés par le virus. Ne pas manipuler les cadavres. Rejoindre les airpoints, les lieux de rassemblement organisés par les autorités. Ensuite, Internet s'est tu. Tout s'est tu. Je me répète pour la 100e fois la chronologie des événements pour garder l'horreur à distance, tandis que je dépasse les corps des deux amants. Ma présence a dérangé les prédateurs habituels de cadavres, insectes, mouches et rats, car des milliers de rats règnent maintenant sur la ville. Ça grouille, ça pue. Cette vermine se nourrit des morts, de ce que nous étions. Analyse, ne pense pas, anticipe. Les rongeurs vont propager d'autres épidémies. Les rares survivants en mourront. Le choléra ou la peste semblent dérisoires à côté du 4, mais ils tueront aussi. Mon père disait toujours, « Pendant les interventions, il faut se concentrer sur les informations scientifiques, ce que l'on sait et ce que l'on ignore, pour ne pas se laisser submerger par les émotions. » Il me le répétait pour m'apprendre à maîtriser le trac avant les examens. Où qu'il soit, se doute-t-il combien ces conseils me sont utiles aujourd'hui dans cette ville défunte ? Voitures abandonnées, débordantes de bagages, déchets et détritus. Un tramway renversé bloque l'avenue couchée sur le flanc. Son chauffeur a dû être pris de convulsions pendant le trajet et perdre le contrôle du véhicule. Ses passagers ont-ils été tués dans l'accident ? Ou ont-ils eu le temps de retourner chez eux pour mourir ? J'évite de regarder les fenêtres du tram, couvertes de buée quand elles ne sont pas brisées. Il y a peu de corps gisant dans les rues. Je m'attendais à pire. Il n'y a plus que la vermine et le silence des hommes. Les médias parlaient de morts par millions, et j'ai vu d'innombrables images de charniers sur Internet. Ici, les malades doivent être restés chez eux pour mourir décemment, discrètement, à la lyonnaise. Ou bien se sont-ils tous précipités dans les hôpitaux devenus à la fois les morgues et les principaux foyers de propagation de l'épidémie ? Les deux premiers jours, quand on croyait avoir affaire à des méningites ou des purpuras fulminants, les malades foudroyés par la fièvre et les hémorragies ont été emportés vers les services d'urgence. Les précautions usuelles se sont révélées insuffisantes. Ils ont contaminé les personnels médicaux qui ont fait partie du contingent suivant. Mais pas tous les médecins. Pas les épidémiologistes qui essayaient de contrer la maladie dans leur laboratoire. Mon père ? Nous y voilà. J'arrive enfin sous les plus hauts immeubles du quartier de Gerland. La boule que j'ai au ventre, elle me taraude comme un ulcère. Tu as peur, Stéphane. Peur de savoir. J'aperçois la tour P4 et m'arrête un instant. Le laboratoire où travaillait mon père est plongé dans le noir. Je ferme les yeux, inspire profondément. Il faut continuer, aller voir, faire quelques pas de plus. Papa, es-tu parti ? Es-tu mort ? S'il restait des chercheurs, il y aurait des groupes électrogènes qui fonctionneraient même en pleine journée. Rien ne serait plus vital pour l'avenir que le travail effectué par mon père, ses collègues, leurs équipes qui étudiaient les virus mortels dans ce laboratoire unique en Europe. La tour est obscure, donc vide. Es-tu parti ? Es-tu mort ? Quand reviendras-tu ? Deux jeunes gens discutent à quelques dizaines de mètres de l'entrée. Ils fument. Je les aborde. Il reste quelqu'un par ici ? Ça dépend, tu cherches qui ? Me demande le plus grand d'entre eux, l'air méfiant. Il a mon âge et un fusil sous le bras. Je montre la tour. Mon père, le docteur Certaldo. Il bossait au labo P4.
Alors oublie, répond le deuxième, plus gentiment. Les militaires ont évacué le labo avec des hélicos il y a 9 jours. Les deux étages les plus bas sont minés et l'accès est interdit avant le retour de l'armée.
Trop d'informations d'un coup. Je vacille. Il reste des adultes, l'armée, les militaires. Vivants. Ils ont évacué les chercheurs il y a 9 jours. Évacués, mais vivants. Parti. Mon père est parti.
Suis de retour dès que ce sera possible. M'a-t-il écrit voici 10 jours.
Et dès le lendemain, il prenait la fuite. Sans moi. Sans même me prévenir. A-t-il essayé ?
Tu comptais sur lui ? Demande le moins rude des deux jeunes fumeurs.
Si tu n'as nulle part où aller, tu peux te rendre sur une zone de ravitaillement, un airpoint. Il y en a un tout près d'ici, au campus de l'école normale supérieure. T'es élève où ?
Au lycée du Parc.
Alors tu dois aller t'inscrire à la Tête d'Or. Ils te diront où loger.
Ça ira, balbutiai-je. Je vais me débrouiller.